Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il est un écrivain populaire, ce qui forcément défrise un peu parfois les snobs du stylo. Mais il plaît à un public qui s'arrache ses livres par millions. Depuis qu'ils ont découvert la vérité sur l'affaire Harry Kéber, son tout nouveau roman, l'affaire Alaska Sanders, est déjà numéro un des ventes. Quand on plonge dans son univers, on se dit que ce garçon, ce jeune homme de 36 ans, semble capable de donner vie, de mettre en mouvement les tableaux de Hopper qui habillent la couverture de chacun de ses livres. Il est la preuve que l'on peut être suisse sans être neutre et surtout sans laisser indifférent. Ce soir, Joël Dicker est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Joël, ben vous ne le connaissez pas. Tu as quel âge ?
Alors j'ai 13 ans.
D'accord. Tu es le co-rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle ?
La Gazette des Animaux que je fais avec un copain qui est Patrick Gerber.
Et alors raconte comment ça marche ta revue là ?
Bah alors en fait, on a commencé cette revue il y a 2 ans. C'était à l'école, on était à l'école primaire. Mais on a continué et on a essayé de persévérer pour la continuer.
On t'a fait sauter l'école là pour venir ou presque.
Ouais, c'est magnifique.
C'est magnifique.
C'est une découverte. Joe Dicker, le jeune écrivain suisse, il a à peine 27 ans. Dicker, on peut le dire, crée l'événement avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un polar noir édité aux éditions de Fallois L'Âge d'Homme, un vrai gros roman américain, 700 pages.
L'Académie française, dans sa séance du jeudi 25 octobre 2012, a décerné son grand prix du roman à M. Joël Dicker pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Vous êtes... Allez. Après les premières pages, j'avais des tas de choses à faire, j'ai pas une vie de loisirs. Ben, j'ai tout laissé tomber, des tas d'obligations. J'ai oublié de dormir, j'ai oublié de me nourrir, j'ai vécu avec ce livre.
Vous avez parlé des prix, etc., des critiques, mais ce qui me touche le plus, c'est les gens qui m'écrivent et qui me disent « J'ai lu votre livre, ça m'a donné envie de lire d'autres livres. » Ou « J'ai lu votre livre, moi qui lisais jamais, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres. »
A devoir despre cazul Harry Kéber.
Yo estoy feliz de estar aquí con Joël Dicker, un fenómeno editorial.
Jetzt mit Joël Dicker.
Ja, also es ist ein sehr dickes Buch, die Wahrheit über den Fall Harry Kéber.
Et l'aventure est loin d'être terminée, puisque désormais c'est à la télévision que les personnages de Dicker vont prendre vie. Une série en 10 épisodes, avec Patrick Dempsey dans le rôle principal et réalisée par Jean-Jacques Hano.
L'auteur Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellerghan.
Alors là, forcément, vous vous demandez, mais pourquoi Britney Spears alors qu'on accueille dans Hors Piste Joël Dicker ? Bonjour à vous et bienvenue Joël Dicker.
Merci, bonjour Thomas.
Pourquoi Britney Spears pour parler de vous ?
Pourquoi ? J'ai eu le malheur de raconter que j'avais pas honte d'aimer la musique que j'aime ou que j'ai aimé, mais que l'idée d'avoir honte de quelque chose ne me ramène pas à maintenant, parce que j'ai pas honte d'aimer ce que j'aime, mais plutôt à l'adolescence. Uh-huh. À l'adolescence, j'avais honte d'aimer Britney Spears, et donc ça veut dire que mes dernières hontes musicales remontent à l'adolescence, et que depuis ce temps-là, j'assume complètement ce que j'aime.
Ça nous fait plaisir de l'entendre en même temps, non ?
Mais ça fait très plaisir.
Hein ? Je suis pas sûr que ça soit beaucoup passé sur France Inter, Britney Spears.
C'est un grand jour.
Joël Dicker, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, c'est ça.
C'est adorable.
C'est une feuille blanche.
Merci.
C'est une feuille blanche.
Bah ça tombe bien. Ça me permet d'écrire un nouveau livre.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez une feuille blanche comme ça ?
Ah, c'est très excitant. C'est une histoire, c'est un défi. D'abord, ça peut être tout. Ça peut être un texte, ça peut être une bande dessinée, ça peut être un dessin, ça peut être des pensées.
Une angoisse parfois ou pas ?
Jamais.
Non, jamais.
Jamais, jamais, jamais. Non, j'ai pas du tout cette angoisse de la page blanche. J'ai pas cette angoisse de la non-créativité. J'ai au contraire, j'ai une angoisse, ou c'est pas une angoisse, mais j'ai des difficultés dans le trop de créativité. Faire des choix, se limiter à un projet, arriver à faire le tri dans tous les projets, dans toutes les idées.
C'est pour ça que vos livres sont gros.
C'est pour ça que mes livres sont gros. Mes livres sont gros parce que je travaille sans plan.
On va y venir ça tout à l'heure.
Mais justement parce que j'aime cette page blanche, elle est une liberté extraordinaire.
Je voudrais savoir ce qui fait qu'un jour le jeune Joël, on vous entendait tout à l'heure avant la mue, hein, avec cette voix d'enfant quand vous aviez 13 ans, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit bah tiens je vais écrire un livre, ou peut-être même mieux je vais devenir écrivain.
Mais je crois que c'est une histoire qui commence d'abord par le plaisir qu'on me raconte des histoires quand j'étais enfant. C'est quelque chose de très oral et je pense que c'est resté au fond dans ma façon d'écrire des livres, c'est une façon aussi de raconter une histoire. Et je crois que les gens qui me disent « mais comment vous faites ? C'est quoi votre truc, votre recette ?» Ben, il n'y a pas de recette, évidemment. S'il y avait une recette pour qu'un livre se vende et qu'un livre marche et qu'un livre soit lu, tous les éditeurs seraient très heureux, tous les auteurs seraient très heureux, tous les libraires seraient très heureux.
Mais ce que vous cherchez, c'est à donner au lecteur le plaisir que vous aviez, vous, quand vos parents vous racontaient une histoire avant de dormir, c'est ça le point de départ ?
D'abord, je me raconte une histoire à moi. Et c'est pas de la démagogie, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai pas une obsession du lecteur, d'abord parce que je peux pas l'identifier. J'ai cette chance incroyable d'avoir un succès immense dans beaucoup de pays avec un lectorat
Et encore, il y a beaucoup d'autres pays.
Qui est un lectorat de gens qui parlent toutes sortes de langues, qui viennent de cultures très différentes, qui ont aussi des âges très divers. Certains sont des grands lecteurs, certains lisent un livre par an. Et donc, comment identifier votre lecteur type ? Pour moi, c'est impossible. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est le lecteur que je suis, pour moi, me raconter une histoire à moi et faire de ce temps pendant lequel j'écris un livre, qui peut être de 2 à 3 ans, un temps pendant lequel je m'évade, un temps qui est plus fort que la vie et plus fort que la routine, que le quotidien, et un moment dans lequel, dès que je suis sur ma page, qui est devant moi, là, je m'évade, je suis ailleurs.
Mais de quoi vous nourrissez pour écrire de l'actualité, de la vie de tous les jours, des petites anecdotes du quotidien ? Vous prenez des petites notes, comment vous faites ? Là, on en vient, comment vous faites pour écrire ?
Ben de tout. Vous savez, je crois que l'inspiration dont on parle souvent, hein, qu'est-ce que c'est ? C'est très difficile de l'expliquer vraiment, mais c'est tout ce que vous avez en vous. C'est tout ce que vous vivez, c'est tout ce que vous avez vécu, ça inclut vos rêves, vos ambitions, vos regrets, vos tracas, les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, le théâtre, des expériences de vie, absolument tout. Tout ça existe en vous. D'abord, il fait que vous êtes comme vous êtes et que vous agissez comme vous agissez. Et on peut se mentir aux autres, on peut mentir à tout le monde sur Instagram en se prenant en photo et en se racontant. Mais nous, quand on est tout nu face à son miroir le matin et qu'on se regarde, on sait ce qui se passe. Et à l'intérieur de nous bouillonne cette créativité dont il faut arriver à laisser sortir. Je crois que l'idée, c'est pas ce qui nous inspire, c'est comment arriver à laisser sortir ce qui est en nous.
Et quel est votre rapport à la réalité dans votre écriture ? Est-ce que vous dites il faut qu'on y croit ? Est-ce que vous dites il faut que ça soit plausible ? Est-ce que vous dites bah non, en fait ça peut partir loin ?
Ça peut partir loin à condition qu'il y ait une promesse. La promesse avec un lecteur, sans l'identifier, mais la promesse que le voyage vaut la peine. Que ce voyage de 700 pages, je me dis ben quand même, ces lecteurs qui vont lire mon livre, qui vont passer plusieurs heures, plusieurs jours, qui vont passer 700 pages avec moi, ils lisent mon livre plutôt qu'un autre. Et le temps est précieux, on le sait. Et donc il faut qu'à la fin du livre, le lecteur se dise ben ça valait le coup. J'ai fait un bon voyage, j'ai aimé ça. Et ça c'est l'élément, je crois, le plus important, c'est que la promesse soit tenue, mais la promesse elle est à la hauteur de ce que vous offrez. Et moi je crois que j'offre beaucoup de plaisir. En tout cas c'est ce que j'essaie de faire, beaucoup de plaisir pour soi-même.
Mais vous pensez rythme aussi? Parce que vous savez qu'on n'est pas chez Proust, hein. Vous ne mettez pas 5 pages pour décrire une bouteille.
C'est vrai.
Ça va vite, il se passe toujours quelque chose. Ça c'est quelque chose qui est inné chez vous ou c'est ça relève de cette volonté d'accrocher toujours le lecteur ?
Non, c'est pas artificiel dans le sens, c'est pas pensé. Mais est-ce que c'est inné ? Très évidemment, je pense. Parce que je suis né en 85, ce qui veut dire que je viens de la dernière génération qui est à la fois une génération de la lenteur, des gens qui lisent, nés avec des livres, nés sans les portables, et à la fois aussi cette génération de l'ultra tout de suite, l'ultra maintenant.
Ouais.
Et je pense que c'est une combinaison des deux. Mais on a été baigné dans ça à partir de l'âge de 15 ans, quand on a des téléphones, des portables, on devait être du jour au lendemain ou presque joignable tout de suite.
Ouais.
Et ça, c'est un grand changement dans nos vies.
Revenons à cette page blanche-là. Comment vous faites pour les premiers mots ? Comment ça commence ?
D'abord, ça commence par une envie. Et la vraie question, c'est pas se dire qu'est-ce qui va être l'idée du siècle ou le personnage clé ou le thème de ce livre ou de ce texte, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce blanc ? Est-ce que j'ai envie de dessiner ? Est-ce que... Et ça m'arrive souvent, je dessine beaucoup, alors je garde pour moi parce que j'ai pas de talent, et en tout cas pas assez de talent pour dire aux gens, ah, regarde, qu'est-ce que t'en penses ? Mais pour moi, c'est du plaisir, parce que c'est le début d'un rêve, de dessiner quelque chose, un paysage, une île, une maison, un animal, rien du tout, un gribouille, mais c'est le début de quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que ça vous donne envie de faire ? Qu'est-ce que ça appelle ? Exactement comme quand on mange, ou quand on a faim, pardon, quand on a faim, on a une envie, on a envie de manger. Et cette envie de manger, elle se traduit par peut-être le réflexe d'aller ouvrir son frigo et regarder ce qu'il y a dedans et se dire qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Bah tiens, je vois que j'ai des œufs, je vois que j'ai un bout de viande, donc j'ai l'impression. Ou bien, au contraire, dire bah tout ce que je vois, ça me dit rien, j'ai pas envie de ça. Et c'est important de pas avoir envie parce que ça nous guide vers quelque chose d'autre. C'est important de l'identifier. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ses courses, on va au supermarché. Et grave erreur de faire ses courses quand on a faim parce qu'on achète tout. On achète absolument tout.
Que le caddie est rempli.
Mais on se dit tiens, puis je vais faire ça, ah, puis je vais faire ça, ah, et puis ça aussi.
Ouais.
Mais c'est un sentiment. Alors pour la nourriture, c'est très mal et on gâche trop de nourriture, donc ne le faites pas au supermarché. Mais pour les idées, c'est très bien. Trop d'idées, c'est formidable. On enlève, on coupe, c'est pas très grave. C'est une
trop d'idées, mais il faut quand même les trier. Vous disiez tout à l'heure, vous faites pas de plan.
Mm-hmm.
Vous connaissez l'histoire. Vous avez une idée du début, du milieu et de la fin.
Non, aucune.
Mais c'est pas possible.
Mais c'est ça que j'aime.
Mais c'est pas possible.
C'est de pas savoir. Et donc, alors, par contre, évidemment que vous lisez un livre à la fin qui est écrit, d'une certaine façon, il est écrit comme vous le lisez, parce que j'écris dans l'ordre dans lequel vous lisez les chapitres et les événements. Je vais pas en avant, en arrière, etc. Mais par contre, évidemment, je repasse, je reprends, je réécris beaucoup. J'écris à peu près le double de ce que vous lisez. Donc ça veut dire que je reprends, je vais en arrière, je me perds beaucoup, j'ai des fausses pistes. Eh ben c'est pas très grave. C'est plus je me perds et plus je comprends ce que je veux faire.
Donc quand vous êtes à la moitié du bouquin, d'abord un, vous savez pas que vous êtes à la moitié du bouquin, et deux, vous savez pas où il vous emmène.
Absolument. Et c'est un plaisir immense. Dans mon précédent livre, L'énigme de la chambre 622, ça commence par un meurtre. On est dans un hôtel, l'employé rentre dans une chambre, il y a un mort par terre, et on ne sait pas qui est mort, et on ne sait pas jusqu'à la page 300 qui est mort, et moi non plus. Et c'est une grande jubilation de ne pas savoir, parce que ça m'obsède. Parce que même quand je n'écris pas, que je rentre chez moi, que je vais dîner, que je suis ailleurs, que je suis avec vous là, je me dis mais qui est mort dans la chambre 622 ? Et c'est très excitant.
Et ça vous obsède, mais est-ce que vous en parlez à votre entourage, à votre famille, ou c'est vraiment quelque chose qui est entre le livre, la page blanche, le stylo ou l'ordinateur? Vous êtes sur ordinateur ou sur stylo?
Un peu les deux. Au début, beaucoup de stylo. Et après, une fois que ça fonctionne et que je sais un peu, là, j'ai les premiers éléments sur un ordinateur, parce qu'on peut aller, on peut enlever, on peut reprendre en arrière, on peut copier-coller, et ça, c'est assez pratique.
Et donc, vous partagez avec quelqu'un?
Surtout pas, parce que personne ne comprendrait rien. C'est-à-dire que personne ne comprendrait votre problème. Enfin, vous pouvez pas l'expliquer. C'est un globi-boulga d'idées, de personnages. Et vous savez pas, c'est juste, c'est aussi de l'instinct. Vous sentez que c'est pas ça, sans savoir ce que c'est. Et tout d'un coup, il y a un espèce de déclic qui dit, ah, mais bien sûr.
Oui. Mais ça doit isoler terriblement d'écrire un livre, finalement. Ça vous met dans une position de solitaire, voire de solitude, non?
Ah, c'est une grande solitude. C'est une grande solitude parce que vous êtes entouré de personnages qui n'existent pas. Vous construisez un monde extrêmement réel pour vous, mais qui n'existe pas. Et il faut...
Dont vous ne parlez à personne.
Et dont on parle à personne, dont je parle à personne pendant 2 à 3 ans. C'est-à-dire que personne ne lit mon texte jusqu'à ce qu'une première mouture, qu'une première version avec l'intégralité du texte soit finie.
Et alors du coup, quand vous avez fini, vous mettez le point final à ce livre, vous allez faire la fête, vous allez boire du champagne, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est la libération ou...
Non, c'est un choc.
Un choc?
Bah, c'est un choc parce que vous dites ça y est. Et tout d'un coup, vous prenez conscience que 2 ans de voyage se sont terminés à l'instant. Alors, c'est un choc un peu diminué parce que vous dites, bon, il y a les corrections. Je vais le reprendre un peu. Il me reste 2 ou 3 semaines. En général, c'est le laps de temps. Pas que je le compte, mais je me rends compte avec le temps. Je me rends compte qu'il y a 2 ou 3 semaines pendant lesquelles je vais reprendre, je vais affiner, je vais réfléchir. Donc, les personnages sont encore là. Et puis,
et c'est une tristesse alors aussi ?
Une fois que le livre est fini, il y a une tristesse parce que vous quittez un monde, vous quittez ces personnages. Je donne l'image, je dis, c'est un peu comme quand vos personnages montent dans un bus et ils s'en vont, des amis de vacances qui s'en vont et dont on se promet qu'on se reverra, qu'on s'écrira, qu'on s'appellera, puis on les perd de vue et on rentre chez soi et on les reverra plus et on le sait. Et il y a une tristesse sur le moment qui est un chagrin éphémère qui s'atténue assez vite, mais qui est là quand même. Et c'est, vous savez, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça existait vraiment pour vous. Et ça, c'est important parce que qu'est-ce qui valide ces 2 ans de travail avec vous-même, ces 2 ans passés à écrire ce livre tout seul dans votre monde? ça peut pas être le succès critique ou commercial du livre, parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on peut pas, faire de promesses, on peut pas garantir ce qui se passera. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous ayez le sentiment que ces deux ans, pour vous, aient eu un sens. Et ça, c'est le succès.
Alors, dans votre œuvre, et notamment dans votre trilogie, vous avez un double presque, hein, c'est Marcus Goldman, c'est l'écrivain qui, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, si ça existe, qui raconte les histoires dans vos livres. C'est qui Marcus Goldman? Pas le personnage, c'est pas ça qui m'intéresse, on laisse ça au lecteur, mais c'est qui dans votre vie Marcus Goldman?
Marcus Goldman, c'est tout ce que je ne suis pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il naît en 2009.
C'est votre jumeau maléfique?
Non, pas maléfique, c'est pas mon jumeau, mais c'est un ami parce que je l'aime bien. Et c'est important ça, mais je le crée en 2009 quand j'ai écrit 5 romans qui ont été refusés par tous les éditeurs, que j'ai fait des études de droit mais que j'aime pas trop ça, puis que je sais pas ce que je vais faire de ma vie, puis en fait je suis complètement paumé. Et je commence ce 6e roman et je me dis, j'ai ce personnage qui s'appelle Marcus Goldman, et Marcus Goldman, il a 25 ans, il est étudiant en droit mais il aime pas ça, il a fait des livres que personne ne lit, et là je m'arrête, je me dis mais ça va pas parce que c'est ma propre vie. Ouais. Et quelle mauvaise idée de raconter sa propre vie, puisque je la connais déjà, je la vis tous les jours. Et je me suis dit, Marcus doit être ce que je ne suis pas. Et c'est comme ça qu'il est devenu un écrivain, un tout petit peu plus vieux que moi. Donc j'ai 25 ans, il en a presque 30. Il a écrit un livre, un seul, et succès colossal. Et donc il est tout ce que je ne suis pas, parce qu'il vit une vie qui n'est pas la mienne. Et en même temps, il est un peu moi, puisque quand je l'écris à ce moment-là, en 2009, je fantasme ce que serait la vie de Marcus, donc ce que serait ma vie si j'avais du succès, etc. Donc il y a forcément de moi, même si c'est pas ma vie...
Il a été votre horizon à un moment, Marcus Goldman, alors?
Il a été mon horizon, il a été une vie fantasmée, parce que j'y crois. Quand je suis en 2009, chez ma grand-mère qui m'a prêté un petit bout de table chez elle, et que j'y suis 7 jours par semaine, 15 heures par jour, à imaginer Goldman qui a eu son succès, et puis qui va en boîte de nuit, et qui a un super appart, et qui a une vie de rêve, je me dis « Oh, ça a l'air génial
!» Et c'est votre vie, ça, aujourd'hui, alors?
Non, vous savez, le succès qu'on rêve n'est jamais le succès qu'on a. Heureusement, parce que il faut garder du rêve.
Ouais.
Il faut garder quelque chose pour aller de l'avant. Il faut que les rêves, c'est Oscar Wilde, je crois qu'il dit ça, il faut que les rêves soient assez grands pour qu'on les perde pas de vue. Et justement, quand le succès arrive et quand le succès vous frappe, il faut rêver plus fort. Ça veut pas dire qu'il faut rêver de plus de grandeur ou de plus de gloire ou de plus de ci ou de plus de ça. Mais rêver
c'est
plus
bizarre,
fort, ça veut dire...
le terme quand le succès vous frappe.
Le succès vous frappe parce que c'est la foudre.
Ouais.
Le succès est vraiment quelque chose qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous retourne complètement parce qu'il change votre rapport. Il change le rapport que les autres ont avec vous. Du jour au lendemain, les gens vous regardent différemment.
Et comment on garde les pieds sur terre quand on vend 5 millions d'exemplaires et qu'on vend dans le monde entier?
Alors, je pense que j'ai la chance d'abord que ce soit un succès de livre. Et je crois que les succès de livre sont très différents des succès de musicien ou d'un acteur, parce que c'est pas un succès qui est lié directement à moi, Joël, physiquement, personnellement. C'est pas moi, c'est mon livre. Et les gens me disent pas « je vous aime », ils me disent « j'aime votre livre ».
Ouais.
Et ça, c'est très important parce que ça crée, je trouve, un biais et ça crée une distance qui est importante. Ça rend ce succès plus doux parce que ça rend... c'est pas un succès fou. Les gens vous voient vous et imaginent que c'est vous parce qu'ils vous ont vu à la télé ou dans des films, etc. C'est votre livre.
Mais ça n'enlève rien à la pression que vous avez, parce que quand on attend le nouveau Dicker, c'est comme quand à l'époque on attendait le nouveau Michael Jackson. Vous savez qu'il y a une attente, qu'il y a une pression énorme.
Je le sais, je le sens quand le livre est terminé. C'est-à-dire que la
vous êtes
pression...
stressé pour le coup quand vous le donnez aux premières personnes qui le lisent, quand vous attendez de voir dans leurs yeux ce qu'ils en ont pensé, quand
forcément je suis stressé, mais c'est pas un stress par rapport à me dire le succès, est-ce que ce livre va avoir du succès ou pas. C'est vraiment un stress par rapport à il y a maintenant 2 ans de travail que je confie à quelqu'un. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va aimer? Est-ce qu'il va avoir le plaisir que j'ai
est-ce
eu
que je suis pas passé à côté de mon sujet?
Mais le risque est là et il faut être conscient de ce risque et être prêt à se dire, et c'est mon cas, et je le dis vraiment, je suis prêt tout d'un coup à me dire, je le fais pas. Si la personne qui lit le livre me dit tout d'un coup, écoute Joël, j'ai rien compris, ça veut rien dire, c'est incompréhensible, ne le fais pas parce qu'on comprend rien, c'est un bon signal, il faut pas le faire. Et il faut être conscient que ce succès-là, il faut le chérir, il faut le travailler aussi, il faut pas le prendre pour acquis.
Il faut le laisser à distance aussi, j'imagine. Parce que est-ce que ça peut tétaniser une plume, le succès ?
Non, il ne faut pas le laisser à distance. Il faut l'embrasser, justement. Il faut le prendre avec soi, il faut le caresser, il faut le cajoler, parce qu'il ne va pas durer très longtemps. Et il faut aimer ce succès. Et en même temps, il faut être capable de le mettre à distance quand il s'agit d'être vraiment dans ce qu'on écrit. En tout cas, pour moi, quand j'écris, je me dis, mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Quelle est mon envie ? On revient à cette envie initiale. Je ne peux pas faire plaisir à mes lecteurs. Je ne peux pas écrire le livre que mes lecteurs aimeraient lire, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai une autre chance avant dans le succès, c'est d'abord que mon livre est traduit dans de très nombreux pays, et que donc quand Harry Kéber est sorti, qui a un succès immense en francophonie, j'allais moi faire la promotion. À ce moment-là, j'étais pas en francophonie pour le voir, j'étais dans des pays où personne ne me connaissait et où je tapais aux portes avec mon petit bouquin et un éditeur derrière moi qui disait « Excusez-moi, bonjour, je suis un jeune auteur en Suisse, on me connaît un peu, est-ce que vous voudriez bien lire ce livre ?» Et ça, ça aide beaucoup. Et puis l'autre chose, c'est que là, je le vois parce que je suis en pleine tournée de signatures dans les librairies. Et je vois des lecteurs qui viennent chaque fois, donc c'est mon sixième roman, avec un livre différent. Ouais. Un livre différent en me disant « Ah, celui-là, c'est mon préféré ». Et comme mes livres sont malgré tout quand même différents les uns des autres, il y a parfois certains, quelques-uns ont un côté plus polar, mais on est dans des histoires de vie, des choses qui sont assez hétérogènes, ça me rend très heureux parce que je me dis « Ben tiens, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas un livre, il y a des livres ».
Il y a quand même un contraste assez saisissant entre vos livres et qui vous êtes ou qui vous semblez être, Joël Dicker. On se dit, quand on voit ce garçon, il doit avoir sa chambre bien rangée. Mais quand on vous lit, on se dit, oulala, là-haut, c'est compliqué quand même.
Ben oui, ma chambre est bien rangée. Mais vous savez, c'est très suisse, le lit au carré, ça c'est l'armée. Non, mais je crois justement parce que pour avoir, en tout cas pour moi, pour avoir une forme de liberté quand, quand j'écris et quand je parle de liberté, ça veut dire vraiment cette possibilité de raconter ce que je veux, d'avoir autant de personnages que je veux, de ne pas mettre de limites. Le plan, je pense, qui serait une limite, parce que je me dirais, bon voilà, début, milieu, fin, je m'arrête ici parce que trop, c'est trop.
Alors vous êtes même allé plus loin, parce que le plan, même dans votre trilogie, est dans le désordre.
Oui.
C'est-à-dire que celui qui est sorti, l'affaire Alaska Sanders, c'est le deuxième alors qu'il est sorti en troisième.
Absolument. Ouais. J'ai écrit 1, 3, 2 avec des livres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ouais.
Mais parce c'était, que justement... c'était une volonté, c'est un jeu, vous avez dit tiens, je vais en insérer un deuxième entre le premier et le troisième ou...
Non, c'était une promesse que je m'étais faite avant le succès. Quand j'ai écrit Harry Kéber et que j'avais encore aucun livre paru, je me suis dit c'est le dernier livre que j'écris. Parce que personne ne me lit, que c'est pas un métier, que je gagne pas ma vie, qu'il faut que je paye des factures à la fin du mois, donc je m'arrête ici. Ouais. J'ai essayé, j'ai échoué, ça arrive, c'est pas grave. Et comme je me fais la promesse que c'est mon dernier livre, je me dis, bah zut, je me suis fait une promesse. Moi, je tiens mes promesses en général. Je me dis, bon, bah, je vais faire une trilogie. Hein, comme ça, c'est un dernier livre, mais il y en aura quand même trois. Et puis, Harry Kéber paraît. Et puis, ce succès immense. Et je me dis, mais je peux pas faire ce tome 2 comme je voulais le faire. Parce que si je fais ce tome 2 maintenant, on va justement penser que c'est facile, c'est gros, c'est une grosse ficelle. Hein. On tire les ficelles, le 1 a marché, on fait le 2, c'est un peu...
Vous réfléchissez quand même à la stratégie, hein, tout ça.
À ce moment-là, et c'est la seule fois où le succès, où le regard de l'autre me déconcerte au point de ne pas faire ce que je voulais faire. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais le tome 3. J'écris le livre des Baltimore qui paraît en 2015 et qui est pas un polar, qui est un genre différent, mais qui se raccroche quand même à ça en me disant, ben, c'est un tome 3, je laisse la place pour le tome 2 parce que j'étais un peu frustré. J'étais frustré de me dire, mais je me suis pas écouté. J'ai pas écouté mon envie de faire ce tome 2. J'ai écouté le succès, j'ai écouté les gens, j'ai écouté le candidaton qui dirait mais après un succès pareil, de toute façon c'est fini, il va s'écraser, il est trop jeune, etc. Et puis ça m'a tracassé pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'en 2020 je me dis mais c'est pas possible. J'ai réussi toutes ces années à pas me laisser charrier par le succès et pas laisser le succès me dire quoi faire. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait après Harry Kéber. Et je me suis dit, c'est l'heure de la réparation, et il faut que je fasse ce tome 2, et c'est pour ça que je l'ai fait.
Rassurez-nous, c'est pas fini, là. Vous avez fini la trilogie, mais vous avez continué à écrire.
Oui.
Du coup, Kéber n'était pas le dernier livre.
Kéber n'était pas le dernier livre. Donc, je n'ai pas tenu cette
promesse. Il y en aura d'autres.
Vous voyez?
Je pense qu'il y a pas mal de lecteurs qui seront contents de vous entendre.
Il y en aura d'autres.
Le dire. Votre femme, dans la vraie vie, elle est psy, hein, je crois. Oui, elle s'inquiète pas trop pour vous, ça va?
Il faut lui demander. Non, elle s'inquiète pas trop parce que j'espère en tout cas j'espère qu'on entend là que je vous parle que même si évidemment dans ma tête de créateur c'est compliqué et qu'on peut lire ça dans les livres que j'écris, j'arrive à donner le change plus ou moins quand je suis face à vous, donc elle s'inquiète pas trop.
Bon, tant mieux. Écoutez ça, vous connaissez ou pas?
Ah bien sûr, pardon, évidemment.
Starsky Hutch. D'où vous vient cette fascination pour les affaires de police ?
Je pense que c'est une fascination qui est surtout une curiosité qu'on a tous d'aller voir ce qui se passe. Et je trouve que souvent, quand il y a un attroupement, quand il y a un cri, il y a quelque chose, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du voyeurisme. Mmh. C'est pas aller voir des choses épouvantables, un accident avec des gens, avec des choses. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais l'idée de qu'est-ce qui se passe, et je trouve quelque chose de très appelant parce que c'est une histoire qui commence. Et quand on raconte une histoire, en général, on dit, il s'est passé quelque chose. Voilà ce qui est arrivé. Mmh. Il était une fois. On se met en condition. Et je trouve que l'idée policière, ne serait-ce qu'une voiture qui passe à toute sirène hurlante dans la rue, ça, c'est le début de quelque chose.
Ça crée quelque chose dans la tête.
En tout cas, moi, ça m'appelle beaucoup.
Mm-hmm. Vous avez une définition du crime parfait qui n'est pas du tout celle que l'on peut avoir de manière générale. On se dit tous, le crime parfait, celui qui laisse aucune trace, personne n'en entend jamais parler, etc. Dans l'affaire Alaska Sanders, c'est pas ça.
Effectivement. Le crime parfait dans ce livre, ça serait le crime qui aurait aiguillé la police très rapidement avec des éléments concrets, des preuves, des traces vers un coupable.
Une mauvaise piste.
Qui avoue et qui ne serait peut-être pas le bon.
Ouais.
Et ça, c'est parti de l'idée que comme j'ai pas de plan, je me suis dit le crime parfait, c'est le crime pour lequel il n'y a aucune trace, comme vous l'avez dit. Il n'y a rien. Alors j'ai écrit mon bouquin, j'ai ce crime parfait pour lequel la police ne trouve rien, ni trace, ni preuve, ni rien. Alors là, vous tournez en rond parce que si vous n'avez rien, il n'y a pas de bouquin. Donc je dis bon, il faut que je revienne un peu en arrière et que je change cette idée et me dire que le crime parfait, c'est peut-être quelque chose qui justement donne trop de pistes.
Vous parliez tout à l'heure de vos premiers livres qui n'ont pas rencontré de succès, qui n'ont même pas rencontré d'éditeur. Hein, personne ne voulait de vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous ressortiez, je ne sais pas, les derniers jours de Nos Pères, il ferait 2 millions parce que juste il y a marqué Joël Dicker dessus?
Alors, Les Agents de nos pères est sorti parce que c'était mon premier roman. Et il a fait 600 000 exemplaires.
Donc j'ai pris un mauvais exemple.
Mais en fait, non, vous avez pris un mauvais exemple parce que, mais c'est pas de votre faute. Les Agents de nos pères a été refusé par tous les éditeurs.
C'est ça.
Possible, imaginable. En 2009. Moment où je l'ai envoyé à tout le monde le refuse et je commence en 2009 à écrire ce roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et voilà que en 2011, complètement par le hasard de la vie, je rencontre un éditeur suisse, Vladimir Dimitrievitch, qui me permet de rencontrer Bernard de Fallois, qui finalement en août 2011 me dit je vais faire paraître votre roman Les derniers jours de nos pères en janvier 2012. Et ce roman paraît en janvier 2012 au moment même où j'ai mis le point final à La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ce roman paraît, Les derniers jours de nos pères, et le succès est d'abord très limité, comme beaucoup de premiers romans, comme beaucoup de textes. Et à ce moment-là, Bernard de Fallois lit le manuscrit de Harry Kéber et il me dit « Mais ça, c'est génial, on va le faire paraître immédiatement. » Je dis « Bernard, vous êtes complètement fou, on vient de faire paraître un livre dont on a vendu 100 exemplaires, ou peut-être 200, mais c'est pas le moment, il faut attendre quelques années, puis je vais faire autre chose, puis il faut que j'écrive autre chose. » Il dit « Non, 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 il faut le faire tout de suite. » Et c'est comme ça que Harry Kéber est paru, qu'il a eu succès immense, qu'il a entraîné avec lui Les derniers jours de nos pères, qui a eu du coup maintenant une très très belle vie. Mais par contre, les précédents romans qui eux n'ont jamais été édités ni lus par personne, ça je les garde parce que j'ai pas envie de faire du neuf avec des vidéos.
Donc cela vous les republierez ou vous ne les publierez jamais?
Je les publierai jamais, je pense.
Oui, oui. On a l'impression qu'en France, il y a une sorte de degré de notoriété acceptable pour être considéré. Il faut vendre, mais pas trop, sinon vous devenez suspect. Quel rapport vous avez, vous, aux critiques?
André Gide faisait baisser les tirages de ses textes parce que c'était mal vu. Mmh. Et il disait, non, j'ai pas vendu autant, etc. Donc c'est quelque chose qui est très ancré. Mais le succès, en général, est quelque chose, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, n'est pas toujours quelque chose qui est bien vu, parce que le succès, il dérange. Le succès dans la littérature, il dérange aussi, mais je crois surtout depuis le nouveau roman. Et c'est dommage, parce que on a oublié à quel point la littérature est un élément fédérateur. À quel point la littérature est un moment qui nous permettrait de nous retrouver, nous tous ensemble, nous qui sommes tous tellement différents, et tant mieux, venant d'horizons différents, venant de vies différentes, ayant des aspirations différentes. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi ça, ceux qui ont ça, c'est la série télé. Qui n'y a pas si longtemps, la série télé, c'était des séries B, un peu minables, qu'on regardait en
disant... C'était pour les comédiens qui n'avaient plus rien à faire. Voilà,
ah, les comédiens de série B, ils étaient... Et les comédiens de série B étaient interdits de cinéma ou presque. C'était impossible d'imaginer un comédien de série se retrouver au cinéma. C'est Clooney qui a été un des premiers à le faire. Et la série, aujourd'hui, est devenue ce truc extraordinaire qui fédère tout le monde. On se dit, quand on ne sait pas quoi se dire, quand on a un dîner et qu'on ne se connaît pas, on va se dire, tiens, qu'est-ce que tu as regardé? Et on va se dire, j'ai vu cette série. Et même si on ne l'a pas vu, on dit, ça passe sur quelle chaîne ou quelle plateforme? Ça engage quelque chose. Et la littérature, elle peut ça, mais elle le peut de façon encore plus forte, parce que quand vous avez vu une série, on a tous vu la même série. Quand vous avez vu un livre, vous avez vu votre livre parce que vous avez imaginé les personnages et les lieux selon qui vous êtes. Lire un livre, c'est se raconter qui on est un peu. Et partager un livre, partager une expérience de lecture, c'est se raconter à l'autre et s'ouvrir un peu.
Est-ce que vous êtes sensible aux critiques? Est-ce que vous les lisez? Ce qui est écrit sur vous, tout ça? Est-ce que vous tapez votre nom sur Google de temps en temps?
Non, je ne fais plus. Ça, je l'ai fait beaucoup quand le livre est sorti et que d'abord, j'ai tapé mon nom sur Google avec mon premier livre en espérant qu'il y ait quelque chose sur moi et ça ne venait jamais. Après, quand les articles sont sortis un peu plus tard, en 2012, je les faisais en disant, oh, c'est incroyable. Oh, il y a 2 pages Google de résultats sur moi, c'est fou. Et après arrivent les articles pas très bons. Et au début, évidemment, quand c'est votre premier bouquin ou votre deuxième, vous avez 27 ans et que c'est le début de ce succès qui arrive comme ça, c'est difficile. Oui. Parce que vous comprenez pas, parce que vous dites, si vous n'avez pas aimé mon livre, c'est pas très grave, mais ne le dites pas, ou ne le dites pas comme ça, ou ne m'attaquez pas moi.
Et puis ça après... vous touche encore aujourd'hui?
Non, pas du tout.
Moi, je l'ai fait, j'ai tapé votre nom là, avant de venir sur Google et j'ai trouvé une critique dégueulasse de Beck BD, par exemple. Est-ce que ça, vous dites, tant pis, pour il existe comme ça, c'est son problème, pauvre mec? Ou est-ce que vous dites, quand même, j'aimerais bien qu'on...
Non, mais là, vous prenez un exemple qui est un bon exemple, parce que vous parlez de quelqu'un qui d'abord écrit des livres qui ne se lisent pas, qui ne sont pas lus, qui aujourd'hui vend de la vodka. non, mais excusez-moi, mais parlons un peu de... Si c'est ça, cette littérature, si c'est ça qui devrait me toucher, je serais mal parti. Non, au contraire, je suis plutôt flatté, parce que je le vois, dégoulinant de jalousie pour mes projets, pour mes lecteurs... Et je le laisse dans son coin.
Et ça vous touche pas aujourd'hui?
Pas du tout.
Vous avez dépassé ce genre de...
Pas du tout. Et en plus, je veux dire, je suis en pleine tournée où je rencontre tous les jours.
Il y a beaucoup. Je dois à la vérité dire qu'il y a d'abord beaucoup d'articles qui racontent vos signatures dans les librairies et que là, pour le coup, la tonalité n'est pas du tout la même.
Non, mais ce qui reste pour moi en ce moment et vraiment en ce moment en plus parce que je le vis tous les jours, c'est ces lecteurs extraordinaires qui viennent me voir, me parler de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont lu, de ce que ça leur a fait. Mais c'est pas tant quelque chose de l'ego de quelqu'un qui vient me dire « Ah, j'ai lu votre livre et j'ai aimé ». C'est ça, c'est vraiment quelque chose de me dire « Mais le pouvoir de la littérature en général et en lequel je crois et dont je vous parlais avant, c'est ce que la littérature peut pour nous. Et tout ce que la littérature peut pour nous, c'est tout ce que les réseaux sociaux, Internet, Instagram et toute cette réalité virtuelle ne peut pas. Mmh. Et la littérature, c'est ces gens qui viennent me voir et qui viennent me dire « Mais voilà, j'étais pas très bien ». Parce que j'étais à l'hôpital, ou dans une période difficile de ma vie, ou dans un divorce, ou enfermé pendant ces 2 ans de confinement, et j'allais pas bien, et grâce à vos livres, je me suis mis à lire, et grâce à la lecture, j'arrivais à sortir de ça, à sortir de cette condition-là. Et ça, c'est ce que peut lire, l'acte de lire. Et c'est pour ça que ce qui me raccroche, moi, à tout ça, c'est pas tant de me dire est-ce que la critique a aimé ou pas, est-ce qu'un tel a vomi de jalousie ou pas, mais c'est de me dire, mais ce que peut la littérature, je le vois tous les jours, dans les librairies, avec ces hommes et ces femmes qui viennent me voir et qui me touchent tellement.
Quel est le livre d'un autre que vous auriez aimé écrire?
Belle du Seigneur, La promesse de l'aube, Chien blanc... il y en a tellement. Il y en a tellement et je pourrais vous en citer à chaque époque de ma vie. Parce que je me suis mis à écrire parce que j'aimais lire. Et parce que j'aime lire toujours, évidemment. Mais cette pulsion de l'écriture, c'est ce plaisir de lecteur que j'ai eu et que j'ai commencé. Je crois que mon vrai grand plaisir de lecteur, c'est vers 15 ans, c'est L'Arme à l'œil de Ken Follett que je lis dans un avion en me disant dans cet avion, je vais regarder la télévision. J'étais très excité parce que c'était le début d'avoir un écran personnel. Petits écrans. Avant, c'était un film pour tous. Et puis, il fallait pas rater le début, etc. Et là, vous avez un écran avec des tas de films. Je me dis, je vais passer quelques heures à me gaver de télévision. Et je commence ce livre et j'ai lu le livre en entier. J'ai pas regardé un film. Et ça a été pour moi le début de quelque chose. Et donc là, je me suis dit, j'aimerais être lui. J'aimerais écrire des livres comme lui. Et puis après, j'ai lu d'autres livres. Et puis à chaque grand livre, on a envie d'être celui qui a écrit ce livre, on a envie d'avoir écrit ce livre.
Et quand on écrit, Joël Dicker, on a encore le temps de lire?
Oui, évidemment, parce que c'est justement ce qui me donne envie d'écrire encore plus. Quand vous lisez un livre qui vous...
Mais vous lisez comme un lecteur ou vous lisez comme un écrivain?
Comme un lecteur, c'est très important. Mais j'arrive vraiment à me sortir de cette idée de l'écriture et de ça, et à me mettre dans la peau du lecteur, parce que j'aime ça, parce que vraiment c'est ce que j'adore.
Quel est le livre que vous n'auriez jamais dû lire?
Probablement tous les livres que j'ai trop aimés, parce que ça me déprime. C'est-à-dire que, plus maintenant, mais il y a une époque où quand j'écrivais mes livres que personne ne voulait lire, et que je lisais ces grands romans qui me faisaient tellement envie, et que j'aimais tellement, je me disais, mais oh, voilà, maintenant que j'ai lu ça, pourquoi écrire? Parce que ce livre, ça existe. Mais vous savez, c'est très important de pas aimer. Et on parlait avant d'aimer ou de pas aimer, mais c'est pas ça dont je parle. Il y a la critique qui est mauvaise et puante, dont on parlait avant. Après, il y a aimer ou pas aimer. Et il faut rappeler à quel point c'est important de ne pas aimer. À quel point ne pas aimer quelque chose pour soi est constitutif. Et d'ailleurs, on peut expliquer très facilement pourquoi on n'aime pas un aliment, un livre, un film, une personne. Mmh. On peut très difficilement expliquer pourquoi on aime un aliment, une personne, un film, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ne pas aimer vous permet de vous construire, et vous permet de vous identifier mieux, et beaucoup plus, et beaucoup plus fort que d'aimer quelque chose.
On va marquer une nouvelle pause musicale, Joël Dicker, après Britney Spears tout à l'heure. Le temps d'écouter la musique que vous avez choisie, vous, cette fois. Alors, c'est quoi ?
Oui, c'est un groupe qui s'appelle Switchfoot, et la chanson, c'est I Dare You To Move.
Joël Dicker, Hors Piste sur France Inter.
Inter. Hors piste, Thomas Soto.
Le choix musical de Joël Dicker, Switchfoot, hein, c'est ça ?
Ouais, absolument.
C'est sympa, ça, pourquoi ce choix ?
Ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle.
Pas si loin.
Ça me rappelle, d'abord, c'est un groupe que j'écoute encore de temps en temps quand j'écris, mais probablement que je l'écoute pas tant pour la musique que j'aime bien évidemment, mais je l'écoute surtout pour ce que ça évoque en moi. Et ça évoque des sentiments de ma jeunesse à cette époque.
Elle était comment, votre jeunesse ?
Elle était heureuse et facile, parce que j'avais de la facilité à l'école, pas de soucis dans la vie, donc de ce côté-là, mais difficile parce que j'avais beaucoup de sentiments à l'intérieur de moi, beaucoup de difficultés à exprimer mon identité de d'être un artiste, que je voulais faire de la musique et aussi du dessin et écrire, et que je savais pas comment le faire, et que quand vous en parlez, on vous dit oui, mais c'est pas un métier ça, qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et Switchfoot que j'écoutais notamment quand je faisais de la musique, j'avais un groupe, j'étais batteur dans un groupe, ça m'évoque aussi beaucoup de rêves que j'avais en disant bah, je vais y arriver, puis je vais m'accrocher à ces rêves-là, et puis je vais pas trop écouter les gens qui me disent que ça marchera jamais, que j'arriverai à rien. Et donc je pense que quand j'écoute cette musique-là, ça me ramène dans un moment au fond très très ambitieux dans le bon sens du mot et très créatif.
Joël Dicker qui publie l'affaire Alaska Sanders, le deuxième volet de la trilogie, mais qui sort en troisième, on en parlait tout à l'heure. Là encore, on retrouve une peinture de Hopper en couverture. À l'origine, c'était votre idée, c'était l'idée de votre éditeur. Pourquoi Hopper? En même temps, ça colle extrêmement bien. Sauf qu'on ne sait pas si ça colle extrêmement bien parce qu'on s'y est habitué ou si c'est ça vient d'où ce...
C'est pendant la préparation de la version finale de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, mon éditeur me dit « Joël, il faut une couverture, j'ai mon maquettiste qui a fait quelques propositions, puis je les vois, puis je lui dis « Bernard, mais c'est pas vraiment ça. »
Bernard de Fallois.
C'est Bernard de Fallois, merci. Et il réfléchit, et il me dit « Mais on devrait peut-être penser au grand maître de la peinture américain, à qui est-ce que vous pourriez penser, etc. » Et à ce même moment, je vois l'exposition Hopper, qui était à ce moment-là pas encore, elle était à Madrid, juste avant qu'elle arrive à Paris en 2012, et je visite ça, je me dis, mais c'est ça. Et je trouve cette photo, qui a été la couverture de View of Orleans, qui a été la couverture de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber, et je l'amène à Bernard, où je faisais un montage grossier moi-même, en mettant sur une page blanche cette photo au milieu, puis mon nom, puis le titre, etc. Je dis, Bernard, pardon, excusez-moi, parce que c'est pas un auteur qui fait sa coup, vous voyez, mais je dis, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez? Il me dit, bah c'est ça, c'est formidable. Ouais. On l'a fait comme ça. Et c'est d'où l'idée de cette feuille blanche, enfin de cette page blanche, cette couverture blanche, et cette couverture qui est cette peinture qui vient au centre et qui est restée ensuite pour les autres livres.
Hopper, peintre américain, Joe Dicker, comme certains vous appellent. Quand j'ai lu la vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'étais persuadé que vous étiez américain, mais persuadé. En fait, vous êtes suisse, mais où sont vos racines?
Mes racines, elles sont suisses, évidemment. Elles sont en Russie aussi, parce que mes arrière-grands-parents sont nés dans l'Empire russe. Du côté maternel, des aristocrates, du côté paternel, des révolutionnaires. Mon arrière-grand-père a fui la Russie juste avant la Révolution parce qu'il était persécuté par le tsar et est venu en Suisse. Et quelques années après, mes grands-parents maternels ont fui avec leur famille la Russie parce que la Révolution avait eu lieu, qu'ils étaient aristocrates, sont venus en France. Ils étaient pendant la guerre en France, sont passés en zone libre. Quand la zone libre a été envahie, ils sont réfugiés en Suisse et donc ils sont devenus... Ils étaient en Suisse avec un passeport Nansen, donc sans nationalité. Et finalement, après la guerre, la Suisse a dit « Bon, moi, vous venez de France, vous êtes français. » Donc, ils ont été naturalisés français. Ma mère est née française. Elle est devenue suissesse quand elle avait 15 ans. Et donc, moi, dans tout ça, je suis né à Genève, Suisse, avec un sentiment, évidemment, très suisse, avec ses racines qui me rendent encore plus suisse. Parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on est et on sait qui on est. Oui. Et donc j'ai un attachement évidemment à la Suisse immense et unique d'ailleurs.
Mais ces racines russes, elles vivent en vous intrinsèquement? L'actualité qu'on connaît depuis quelques semaines, c'est quelque chose que vous ressentez intimement ou comme chacun d'entre nous finalement avec la distance qu'on a tous et l'émotion qu'on peut ressentir aussi, hein. Mais est-ce que c'est quelque chose de viscéral chez vous ou pas?
Mais c'est viscéral, mais pas par rapport à la Russie ou à rien d'autre que d'ailleurs l'autre partie de ma famille venait de Crimée, donc de l'Ukraine, à un moment donné où cette partie de l'Europe était un immense bloc et où tout a été tellement bouleversé jusqu'à maintenant. Mais je me sens pas russe de la Fédération de Russie, mais je me sens surtout européen et je souffre viscéralement de ce que je vois parce que je vois qu'aujourd'hui en Europe, je vois ces hommes qui sont tués, ces femmes et ces enfants qui fuient ou qui sont tués aussi, ces civils qui sont massacrés, cette démocratie envahie. Et puis ça me ramène à la Suisse, vous savez, parce que on est nous en Suisse la démocratie et on s'en vante beaucoup en disant bah on est un pays où c'est vrai on vote tous les trois mois, quatre fois par année, on vote sur plusieurs sujets.
Les fameuses votations.
On vote le référendum. Le 16 mai, on va voter sur des questions à la fois une loi sur Netflix sur le consentement pour donner ses organes, enfin des trucs complètement divers et variés. Mais on oublie à quel point cette démocratie, elle vit à travers nous. On oublie à quel point on est, nous, en tant qu'électeurs, quand on va voter, nous les Suisses, on en est garant et on va pas beaucoup voter. Et donc quand je vois l'Ukraine et quand je vois à quel point la démocratie est fragile, ça me ramène beaucoup à cette Suisse qui vit par sa démocratie et dont je me dis que le maillon démocratique est pas toujours assez fort.
Je crois que vous avez essayé quand même, vous, le Suisse et le Genevois, d'essayer de vivre à Paris un moment, non?
C'est vrai, ouais, vous êtes très bien informé. J'ai fait quelques mois au cours Florent.
Ouais.
Être un acteur était quelque chose qui, je croyais, pouvait me plaire. Et du coup, j'ai fait quelques mois au cours.
Et auquel vous avez renoncé totalement ou pas aujourd'hui?
Complètement, oui. Ben, je me suis rendu compte que j'avais pas le feu sacré.
Ouais.
Aimer faire quelque chose, c'est bien, tant mieux si on aime bien quelque chose, mais avoir le feu sacré, c'est mieux. Et je cherchais vraiment ce pourquoi j'étais prêt à me battre.
Vous avez beaucoup de sport aussi, paraît-il.
Ouais. J'aime le tennis, j'aime le squash, j'aime le tennis comme tous les Suisses, mais je joue pas au tennis, mais j'aime le tennis comme tous les Suisses.
Vous êtes assez loti.
On a été, évidemment, biberonné, emmené par un Federer tellement extraordinaire que ça nous a marqué tous.
Je vais vous faire entendre un champion. Tiens, un champion de tennis, vous allez me dire si vous le reconnaissez et ce que vous en pensez.
Je me suis posé la question souvent, mais c'est peut-être ça qui fait que je suis allé aussi loin dans le tennis, c'est que
Stan.
Je suis jamais satisfait de ce que j'ai, dans le sens où comme il y a toujours plus, comme il y a toujours un tournoi supplémentaire à aller et que la carrière n'est jamais finie et chaque semaine il faut continuer, je regarde toujours vers l'avant et jamais vers le passé.
Mais vous savez, c'est très vrai ce qu'il dit, Stan Wawrinka. Et ce qu'il dit est très vrai. Et c'est ce qui me fascine avec le tennis, qui est vraiment un sport extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi, parce que le tennis, quand vous êtes un grand champion, c'est-à-dire que quand vous avez gagné un tournoi du Grand Chelem, vous
trois, avez fait trois pour lui en l'occurrence.
Trois pour lui, mais ouais. Ne serait-ce que un. Vous avez gagné un tournoi du Grand Chelem, donc vous avez fait le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, et puis les huitièmes de finale, les quarts de finale, et vous arrivez en finale, vous gagnez la finale. Eh ben, tout ce que vous pouvez faire, le mieux que vous pouvez faire, c'est faire pareil l'année suivante.
Ouais.
Et si l'année suivante, vous retournez dans ce même tournoi et que vous gagnez encore le premier tour, le deuxième tour, etc., et que vous arrivez en finale, eh ben, même si vous gagnez cette finale, vous aurez juste maintenu votre niveau.
Ouais.
Le tennis est d'une difficulté et d'une cruauté pour ça. C'est un peu ce que Stan dit, je crois, hein, extraordinaire.
Et
qui vous oblige à regarder de l'avant toujours.
Il parle aussi en creux de la difficulté de profiter de l'instant.
Ouais.
Soit on digère l'échec, voilà, on s'est planté, ça n'a pas marché, soit on se dit qu'il va falloir s'y remettre tout de suite parce que, comme vous le disiez, la pression revient. Est-ce que ça, vous connaissez ça ou pas, vous, dans votre vie d'écrivain? Est-ce qu'il y a un parallèle entre la vie du sportif de haut niveau et celle d'un écrivain à succès?
Oui, parce qu'il y a justement ce recommencement, il y a cette conviction, il y a ce feu sacré qui les emmène à des entraînements et à passer leur journée à s'entraîner, à travailler, à voyager pour aller faire des matchs et des tournois et encore et encore. Et puis il y a ce recommencement, il y a cette solitude aussi, hein, ce joueur de tennis qui est seul face à lui. Parce que même quand il est face à un adversaire, il est face à lui-même, parce que c'est son échec, c'est ses coups ratés, c'est quand il n'est pas dans le match, c'est tout le mental. Et il y a beaucoup de ça dans l'écriture aussi. Hein.
Et puis il y a le doute du sportif, évidemment.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons.
Est-ce que vous doutez, Joël Dicker?
Beaucoup, heureusement. Mais vous savez, le doute, c'est quelque chose de formidable. On a malheureusement...
Non, le doute, c'est un truc qui vous pourrit la vie, qui vous pourrit la nuit, qui vous gâche les bons moments. Le doute, c'est pas
non,
formidable.
Non, c'est un moteur extraordinaire. Et vous savez, quand on voit le doute comme quelque chose qui vous pourrit, évidemment que c'est quelque chose qui va vous pourrir et qui vous emmène au fond et qui vous tord et qui vous traîne. Mais quand vous vous rendez compte que le doute, c'est une chance extraordinaire de vous arrêter sur un moment de vous-même, sur quelque chose que vous êtes en train de faire, un bout de votre carrière ou de votre famille ou de votre vie ou peu importe ce que c'est, et que c'est la chance de vous arrêter, de regarder ce moment ou ce que vous êtes en train de faire et de vous dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Ah non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Et le doute n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher, il est quelque chose qui vous immobilise un instant pour vous permettre de vous arrêter sur vous-même et de prendre le temps de la réflexion. Dans cette société dans laquelle on vit très vite, on vit trop vite, on zappe tout le temps, le doute est notre allié, il est notre ami. Il va nous permettre de prendre le temps dont on a besoin pour se poser les questions qu'on doit se poser, pour mener notre vie à bien, pour être en cohérence avec nous-mêmes, pour être en accord avec ce qu'on fait. Et ça, c'est important.
On a écouté tout à l'heure dans le petit portrait sonore l'hymne suisse. On va en écouter un autre d'hymne. Vous avez reconnu
l'hymne national anglais.
God Save the Queen.
God Save the Queen.
Évidemment.
Ouais.
Il paraît que vous adorez la reine d'Angleterre.
Mais je sais pas d'où ça. Oui, non.
C'est vrai ou c'est pas vrai ça?
Oui, mais enfin, j'adore la reine. Je précise. Je ne connais pas la reine d'Angleterre parce que j'ai un respect immense.
Peut-être qu'elle vous a lu.
Peut-être qu'elle m'a lu. Ça, je ne sais pas. Mais je trouve que le personnage qu'elle incarne est quelque chose d'extraordinaire. 70 ans, cette femme a régné sur l'Angleterre, a été un dirigeant, elle est reine, mais on peut la considérer comme une dirigeante d'un pays d'Europe, en se demandant si c'est l'Europe ou pas, en tout cas c'est l'Europe continentale, bref. Et c'est quelque chose d'unique, il faut bien se rendre compte que le jour où la reine ne sera plus là, on aura perdu quelque chose, on aura perdu ce monarque qu'on ne retrouvera plus jamais. Mmh. Parce que plus jamais personne ne régnera pendant 70 ans. C'est mathématiquement impossible. Et pour Charles, et pour William, ou pour... Et donc, se dire que cette femme qui a traversé 70 ans d'histoire européenne, qui a traversé la guerre jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même pour moi une référence.
Mmh. C'est un personnage de roman, la reine d'Angleterre ?
Ah, sûrement. Mmh. Sûrement, mais c'est un personnage de roman... qu'on ne croirait pas.
Oui.
Parce que si la reine se racontait vraiment telle qu'elle était, et je pense que personne n'y croirait. On dirait, non, mais si je disais, voilà, mais ça c'est la reine qui m'a dit ça, on me dit, mais non, c'est une blague. Je pense qu'elle a, voilà.
On sent votre admiration pour sa longévité, hein, couronnée le 6 février 1952, il y a donc 70 ans, vous me disiez. La peur de ne pas durer, c'est important pour vous ? Ça compte ? Vous y pensez ?
La peur de mourir, plutôt.
Plutôt ?
Bah, la peur de pas durer, j'imagine que vous faites référence au succès.
Quand la lumière s'éteint.
Mais moi, quand vous parlez de la lumière qui s'éteint, c'est, en tout cas, pas cette angoisse, que c'est pas une angoisse, mais cette conscience de me dire que la seule chose qu'on sait dans notre vie, c'est qu'elle s'arrête.
Ouais.
Et c'est la seule certitude qu'on a. On a absolument aucune certitude de rien. On peut se promettre absolument rien, on ne peut se garantir absolument rien. On sait une chose, c'est que un jour, peut-être tout à l'heure, peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 ans, ou dans 30 ans, cette vie s'arrête.
Ouais.
Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce voyage? Puisqu'on connaît la fin, comment est-ce qu'on remplit tout ça? Et ça, c'est ma quête.
Si vous la rencontriez, la reine d'Angleterre, quelles questions vous lui poseriez? Attention, il y a un piège.
Il y a un piège, je sais pas, peut-être qu'on peut pas lui poser de questions.
C'est ça. On a pas envie de lui poser une question, c'est elle qui doit guider la conversation.
C'est elle qui doit guider. Alors, mais si elle me disait, oh, cher Joël, vous pouvez me poser une question, je lui dirais, d'abord, je sais pas comment ça, on s'adresse à elle. Faudrait que je demande à Monsieur Bern, mais je vais lui dire votre Altesse. Est-ce que vous en avez marre? Hein, est-ce qu'elle a aimé ce rôle dans lequel elle a été projetée si jeune à la mort de son père? Est-ce qu'elle a eu le sens du devoir pendant 70 ans? Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle a juste envie de tout claquer, de prendre une retraite bien méritée, de filer la couronne à son petit-fils et d'aller manger des burgers dans son cottage? Je sais pas. J'aimerais bien savoir.
Vous avez donc plusieurs questions à lui poser. On va terminer ce hors-piste avec l'objet que vous avez apporté,
oui.
Joël Dicker.
Bah, vous savez, je me suis posé la question.
C'est donc un petit cahier.
C'est un cahier, mais c'est un cahier que j'ai reçu il y a quelques jours, en dédicace, d'une jeune femme qui s'appelle Jeanne, qui a 12 ans, et qui m'a donné son manuscrit. Et c'est un manuscrit qu'elle a écrit de façon manuscrite, donc à la main, dans un petit cahier.
Claire Fontaine,
un classique. Claire Fontaine, qui sont les cahiers que j'utilise aussi. Et j'ai été vraiment ébranlé par ce cahier. D'abord, je lui dis, mais je peux pas, c'est ton texte. Elle me dit, j'ai fait des copies, j'ai fait des photos. Comme ça, je l'ai encore et je le garde. Mais je veux que vous l'ayez. Et j'ai été hyper touché parce que ça m'a projeté dans ma propre jeunesse. Moi, à 12 ans, remplissant ces cahiers, de la même façon, le même cahier. En plus, ça m'a troublé parce qu'elle a commencé son texte à l'envers, c'est-à-dire que le cahier, elle l'a ouvert du sens de la fin vers la fin.
Le début. Hein.
Et c'est ce que je faisais souvent. Et donc j'ai été hyper touché parce que ça m'a ramené à cette condition, mais que j'ai encore, dans laquelle j'arrive à me retrouver parfois, cette condition d'enfant qui rêvait et qui rêve toujours. Et tant que je suis protégé de ça, tant que le succès n'atteint pas ça, c'est que tout va bien.
Vous l'avez lu ou pas encore?
Je suis en train de le lire.
Et si ça vous plaît, parce que vous êtes éditeur maintenant aussi.
Ça me plaît. Alors, il n'est pas fini, mais j'ai promis, elle m'a donné rendez-vous, Jeanne, elle m'a donné rendez-vous en 2025, parce qu'en 2025, elle aura 15 ans. Et elle aimerait venir passer une demi-journée dans ma maison d'édition à Genève pour voir comment ça marche. Donc, dans 2025, je dis qu'elle pourrait venir.
Attention, et c'est enregistré.
Maintenant. C'est enregistré, mais de toute façon, elle viendra.
Merci beaucoup, Joël Dicker, d'être Thomas. Venu passer une heure hors piste avec nous ce soir. Merci à Marie Mériel à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Célim Guéribi aux manettes. Prochain hors piste dans une semaine sera toujours à 17h, toujours sur France Inter. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous, Joël Dicker.
Soyez apaisés.
Merci.